Le journal de Loïc Jourgi.
Bonsoir, la fusion entre Tournos et Sarag est entérinée. Les actionnaires du fabricant prévotois de machines-outils ont avalisé cet après-midi l'union avec le groupe saint-gallois Starag. On en parle dans ce journal. Le canton du Jura fixe ses priorités pour les 4 prochaines années en matière d'intégration. Il a validé son programme pour la période 2024-2027. Objectif, mieux cibler les besoins de la population étrangère. Un bilan fait de haut et de bas pour le FC Basse-Cour. À l'issue de cette première partie de saison de Première Ligue, il y a des satisfactions à tirer, surtout au niveau du jeu proposé. Mais le manque de constance noircit légèrement le tableau. Météo, après la neige, c'est la pluie qui reprendra ses droits dans la région. Des averses sont au programme de cette nuit et de demain, avec une limite des chutes de neige qui ne passera plus sous les 1000 mètres. Les températures, elles, resteront fraîches. L'union entre Tournos et Starag est officialisée. Réunis en assemblée extraordinaire, les actionnaires du fabricant de machines-outils ont validé ce jeudi à Moutiers la fusion avec le groupe saint-gallois. Plus d'une majorité des 2/3 des voix représentées s'est prononcée en faveur de cette union. Dans un contexte de ralentissement conjoncturel mondial et de pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans l'industrie, cette fusion devrait permettre à Tournos d'envisager l'avenir plus sereinement, même si ça ne garantit pas pour autant à Tournos d'être à l'abri des tempêtes, comme le rappelle François Frotté, président du conseil d'administration.
Écoutez, je crois que ce n'est pas cette fusion qui va être une sécurité absolue pour les entreprises. Chaque entreprise devra continuer à travailler, être compétitive sur les marchés. Donc la fusion facilite beaucoup de choses, donc contribue à améliorer la possibilité de faire des bonnes affaires et de pérenniser l'avenir de cette entreprise. Mais ce n'est pas la fusion en tant que telle qui va modifier l'avenir de Tournos.
Le nouveau groupe baptisé Starag Tournos Group SA verra le jour le 7 décembre prochain. L'entité compte désormais 2000 collaborateurs, dont 650 se trouvent dans les 3 usines en Suisse. Pierre Coulry va intégrer le conseil municipal de Moutiers à partir du 1er janvier prochain. Le socialiste autonome a accepté de succéder au démissionnaire Karim Bortoloussi. L'exécutif prévotois devrait valider cette arrivée lors de sa prochaine séance prévue mardi. Actuel conseiller de ville PSA, Pierre Coulry était le 2e des viennent ensuite de son parti après les dernières élections municipales. La première, Mylène Jolidon, n'a pas souhaité prendre le fauteuil vacant pour des raisons professionnelles. Des actions ciblées pour l'intégration des étrangers dans le Jura. Le canton a signé la nouvelle convention programme en la matière avec le secrétariat d'État aux migrations. Cela permet la mise en œuvre du programme d'intégration cantonale 2024-2027. Le gouvernement veut consolider les actions déjà menées, mais aussi développer certaines mesures. La lutte contre la discrimination se jouera aussi dans l'administration cantonale, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas ouverte ou non discriminatoire, la ministre de l'Intérieur Nathalie Bartoulot.
Non, alors bien au contraire, je pense que c'est un souci permanent. Mais ce qu'on peut observer, c'est que de manière générale, on a vu qu'il y a différentes études qui ont été menées en Suisse, et pas particulièrement dans l'administration cantonale jurassienne, qui démontrent que c'est un point de vigilance que les administrations doivent avoir pour notamment favoriser l'accès à certains emplois pour des personnes d'origine étrangère. Et qu'en cela, c'est plus un point de vigilance, je dirais, à avoir par rapport à ces questions sensibles. Pour s'assurer d'avoir une administration ouverte et non discriminatoire, je pense que c'est aussi des formations, mais aussi, je dirais, sensibiliser les institutions qui doivent, je dirais, gérer cette question d'ouverture et de non-discrimination en faisant également, de temps à autre, des rappels sur cette thématique.
Vous retrouvez le détail du programme d'intégration cantonale 2024-2027 sur rfj.ch. Les Jurassiens ont immortalisé la lutte pour l'indépendance. Il y a un peu plus d'un an, les archives jurassiennes lançaient une étude pour recenser le patrimoine audiovisuel du canton. Les résultats de cette recherche sont publiés dès aujourd'hui sur le site de l'institution. Le rapport évoque le contenu de ce patrimoine conservé tant par les institutions que les privés, expose des chiffres et statistiques autour de ces documents. Une telle démarche a forcément débouché sur des surprises, comme en témoigne l'archiviste cantonal Antoine Glenzer.
Ce qui nous a surpris, ce n'est pas tellement le nombre de photos conservées qui est estimé à 2 millions, c'est surtout ce qui concerne les films et les vidéos. Il y a eu beaucoup d'efforts dans ce sens-là, faits par les Jurassiens pour intérêt par rapport à ce mode de conservation de leur vie, en fait.
Qu'est-ce qu'elles racontent, ces archives? Qu'est-ce que les particuliers se plaisent à conserver?
Alors, tout ce qui va concerner leur vie quotidienne, donc leur environnement proche, Et puis, secondairement, et c'est ce qui nous intéressait aussi, il y a des sujets qui touchent à la question jurassienne. Ils ont filmé ces années de lutte et puis d'entrée en souveraineté.
Ce sont des documents qui ont une valeur exceptionnelle ?
Chaque film en soi a une valeur exceptionnelle. Maintenant, il faut voir comment le projet peut se développer. Il faudrait aussi que les auteurs donnent ces films aux archives pour qu'on puisse après en assurer la diffusion et la conservation.
Un sujet réalisé par Léonie Adrover, certains de ces documents pourront être utilisés l'année prochaine dans le cadre des festivités du 50e anniversaire du vote sur l'indépendance du Jura. Le rapport sur le projet jurassien de recensement des fonds audiovisuels peut être consulté gratuitement en ligne. Retrouvez le lien sur rfj.ch. Un nouveau grand projet de recyclage pour la Flaza. La filature de laine à Halle s'est déjà diversifiée depuis plusieurs années dans le domaine de l'énergie et du recyclage de divers appareils du quotidien. Avec l'entreprise Planair, elle s'attaque désormais à donner une nouvelle vie à une pale d'éolienne. Elle est arrivée il y a quelques semaines par convoi exceptionnel sur le site à Halle et deviendra un abri pour voitures avec une fonction d'énergie renouvelable. Un projet unique en Suisse avec une telle envergure, Jérémy Pignard.
C'est un monstre de plus de 40 mètres, couché devant la Flaza en attente de sa seconde vie. Avant, cette pale fendait l'air à toute vitesse pour fabriquer de l'électricité. Elle va désormais servir de toit à près de 200 panneaux photovoltaïques, explique le patron de la Flaza, André Jansix.
Cette pale est appelée à devenir un carport pour accueillir en dessous des voitures, également la possibilité de recharger les batteries des voitures électriques qui vont y stationner. Donc plutôt que de détruire, éliminer, recycler ces matériaux et à côté, pour un nouveau carport, utiliser de l'acier et devoir reconstruire une structure, eh bien, utilisons les éléments structurels qui sont à disposition.
Dans un parc éolien, les pales sont les seuls éléments qui ne se recyclent pas, trop abîmés par le mouvement. Une aubaine pour l'entreprise Planair et son responsable développement Yoris Vaucher. Lui y voit un support idéal pour du recyclage.
C'est un matériau qui est très solide et qui peut durer bien au-delà de la durée de vie qui lui est consacrée en tant que pale d'éolienne. Elle peut servir de support pour des panneaux photovoltaïques pendant une soixantaine d'années après ça. On veut valoriser ce matériau qui est génial, mais qui est malheureusement jeté actuellement.
Cette installation fournira de quoi alimenter l'équivalent de 25 ménages. Une partie sera autoconsommée, le reste réinjecté dans le réseau. Avec ce premier grand essai, Yoris Vaucher espère bien convaincre le marché.
C'est effectivement une vitrine, c'est un premier démonstrateur qui, on l'espère, fera beaucoup de petits. J'en suis très convaincu parce qu'il y a beaucoup de parcs éoliens qui vont être démantelés dans l'ensemble de l'Europe et dans le monde. Voilà, une énorme ressource de pales qui sont un matériau génial pour servir de support pour des panneaux photovoltaïques. On a un boulevard devant nous avec ce produit.
Pour la Flaza, c'est aussi une vitrine de sa diversification vers l'énergie et de son écopôle. Une des entreprises qui occupe ses locaux et qui recycle des batteries pourrait d'ailleurs s'associer au projet.
L'écopôle de la Flaza accueille actuellement 23 entreprises pour du stockage, de la logistique ou du recyclage de batteries ou encore d'appareils électroménagers. Un couple de personnes âgées a été retrouvé sans vie mardi soir dans une localité du littoral neuchâtelois. La police neuchâteloise ne précise pas laquelle. Les forces de l'ordre ont découvert une arme à feu sur les lieux. Les faits semblent s'être déroulés à huis clos. La police ne communique pas davantage sur les circonstances de ces deux décès. Une enquête est en cours. Les femmes afghanes ne sont pas plus nombreuses à demander l'asile en Suisse. Le secrétariat d'État aux migrations a indiqué aujourd'hui que son changement de pratique n'avait pas d'effet sur les nouvelles demandes. Le SEM a décidé au mois de juillet de tenir compte de la persécution des femmes afghanes dans leur pays d'origine. Il peut désormais leur accorder le statut de réfugié. Les quelques 3000 Afghanes qui n'ont pas obtenu l'asile mais qui bénéficient d'une admission provisoire peuvent donc déposer une nouvelle demande et obtenir plus facilement le regroupement familial. Mais ce changement ne rend pas la Suisse plus attractive, estime Claudio Martelli, directeur adjoint du secrétariat d'État aux migrations.
C'est une pratique qui est alignée à la pratique que les autres pays européens ont aussi prise. C'est presque tous les pays européens qui ont la même pratique envers les femmes afghanes que nous. Et nous ne pensons pas que pour cette raison, la Suisse est particulièrement intéressante pour les femmes afghanes.
Est-ce que vous pensez que les femmes afghanes qui vont obtenir le statut de réfugié, il y en a beaucoup qui veulent faire venir leur famille d'Afghanistan ?
Non, là aussi, la plupart d'eux, ce ne sont pas des femmes seules, ce sont des femmes qui sont déjà ici avec leur famille. Il faut aussi mentionner que c'est très difficile de quitter l'Afghanistan. C'est un nombre pas vraiment important des femmes seules qui quittent l'Afghanistan et qui viennent en Europe.
Le secrétariat d'État aux migrations précise que le statut de réfugié n'est pas accordé de manière automatique. Chaque demande de femme afghane est examinée individuellement.
RFJ, les 18h10.
Sport. Dmytro Timashov patinera sous le chandail du HC Ajoie jusqu'à la fin de la saison. Le club jurassien de National League de hockey sur glace a activé l'option de l'attaquant suédois aujourd'hui. Dmytro Timashov a déjà disputé 7 rencontres avec le HCA, inscrivant 2 buts et réalisant 5 assists. Il s'était initialement engagé jusqu'à la fin du mois de décembre avec la formation Ajoulotte. Le FC Basse-Cour a pu ranger les crampons bien au chaud. Sa rencontre initialement prévue samedi contre Könitz a finalement été renvoyée au mois de mars dans le championnat de Première Ligue de football. Le club Vadet en a donc terminé avec son premier tour qu'il boucle au 13e rang avec 4 points d'avance sur la barre mais 2 matchs de retard. Le directeur technique du FCB, Fabrice Ribaud, dresse le bilan.
Tous les sentiments se mêlent. On a de la satisfaction parce que on a eu 11 nouveaux joueurs, on a changé de staff. Et puis au niveau du jeu, contre des adversaires de qualité, on a fait jeu égal, voire parfois mieux. Et puis de ce côté-là, c'est des satisfactions. Alors évidemment, on est aussi un petit peu déçus par rapport à notre efficacité offensive, mais aussi l'efficacité défensive. On a eu des oublis, des problèmes de concentration parfois sur certains matchs ou sur certaines parties de match. Donc c'est un peu partagé, voilà.
Fabrice Ribaud qui indique que quelques joueurs pourraient venir renforcer les Vadets pour le deuxième tour, surtout des éléments défensifs. Vous l'entendrez à ce propos demain dans la matinale et sur rfj.ch. Le cyclocross des Princes-Évêques reprend ses droits ce samedi dans des conditions idéales pour pratiquer ce sport. Boue, froid, tout est réuni pour cette 6e édition. La recette ne change pas, mais l'événement n'est plus organisé par le GS Ajoie, mais par le nouveau club cycliste Les Vouivres. L'association est née en début d'année avec la volonté première de reprendre l'organisation du cyclocross des Princes-Évêques, mais aussi de créer un nouveau club de vélo en Ajoie, explique son président Franck Fleury.
On est vraiment parti d'un groupe d'amis qui roulions déjà ensemble. De fil en aiguille, on arrive à avoir gentiment la forme d'un club avec des sorties officielles. On roule les mercredis soirs, les samedis après-midi. Donc que ce soit en vélo de route, à VTT ou si à VTT électrique. On n'est pas dans une volonté d'avoir absolument 200 membres, 300 membres tout de suite. C'est vraiment d'avoir un noyau qui est vraiment en bonne cohésion. Et on est avant tout là pour le plaisir. On n'a pas volonté à faire un groupe de compétition ou comme ça. Si nos membres veulent aller faire des courses, pas de problème. Mais on n'a vraiment pas cette volonté d'avoir des entraînements vraiment très spécifiques à la compétition. Vraiment, notre credo, c'est de rouler par plaisir, découvrir la région, découvrir les routes, les sentiers au fur et à mesure des saisons. Donc c'est vraiment ça qu'on recherche dans notre club.
Le cyclocross des Princes-Évêques se tient samedi toute la journée à Porrentruy. Premier départ à 10h30 et l'épreuve reine masculine partira à 15h. C'est la fin de ce rendez-vous d'actualité. Je vous souhaite une excellente soirée.